إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On va donc terminer ce soir, Inch'Allah Ta'ala, la lecture de cette épître, Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah, de l'imam Abu Bakr al-Humaydi rahimahullah Ta'ala. On a vu la semaine dernière la parole de l'auteur rahimahullah Ta'ala concernant la différence entre les Khawarij et les gens de la Sunnah au sujet du statut de l'auteur des grands péchés. Et on a développé l'explication de cela. Et l'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala, il a clôturé cette épître en faisant suivre cette question par l'exposé de son avis au sujet du délaissement des piliers de l'islam. Il a donc dit rahimahullah ta'ala, وَلَا نُكَفِّرُ بِشَيْءٍ مِنَ الذُّنُوبِ إِنَّمَا الْكُفْرُ فِي تَرْكِ الْخَمْسِ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Il a dit rahimahullah, la mécréance ne concerne que le délaissement des cinq, c'est-à-dire les cinq piliers, au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'islam est fondé sur cinq. L'attestation qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du Ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous expose ici le statut de celui qui délaisse les piliers de l'islam. Et tout d'abord, il faut savoir que sur cette question, il y a certains points sur lesquels les gens de science sont unanimes et d'autres au sujet desquels ont divergé les salafs parmi les imams des gens de la sunnah. Le point sur lequel il y a unanimité concerne les deux attestations. Quiconque les délaisse, tout en étant capable de les prononcer, alors il a mécru, et ce à l'unanimité des gens de science. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, quant aux deux attestations, s'il ne les prononce pas, alors qu'il en est capable, alors c'est un mécréant, intérieurement et en apparence, selon les salafs, les prédécesseurs, de la communauté et ses imams. Et les points au sujet desquels les gens de science parmi les imams de la sunna ont divergé concernent les quatre autres piliers. C'est-à-dire qu'ils ont divergé au sujet de celui qui les délaisse par négligence ou par paresse. Quant à celui qui les délaisse, ou même un seul d'entre eux, en reniant son obligation, alors celui-ci est un mécréant à l'unanimité des gens de science, comme l'ont mentionné nombre d'imams parmi les savants, comme l'imam Ibn Qudama, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab, ainsi que d'autres. Cependant, les gens de science ont mentionné une condition pour taxer de mécréance celui qui renie l'obligation d'un seul ou plusieurs piliers de l'islam. La condition qu'elles ont émise, c'est que ce jugement ne s'applique que sur celui qui a vécu parmi les musulmans et qui les a côtoyés. Quant à celui qui a vécu dans une campagne, loin des musulmans, loin des gens de science, ou celui qui vient d'entrer en islam et n'en connaît pas encore ses règles et n'a pas côtoyé les musulmans pour les interroger au sujet des règles de l'islam, alors celui-ci est excusé s'il renie une de ses obligations jusqu'à ce qu'il ait connaissance des preuves de l'obligation. C'est-à-dire qu'on lui expose les preuves, on lui démontre l'obligation de ses piliers. Puis s'il persiste à renier leur obligation, alors dans ce cas, après lui avoir exposé les preuves, c'est un mécréant. L'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit au sujet du statut de celui qui délaisse la prière. Il n'y a pas de divergence au sujet de la mécréance de celui qui la délaisse, c'est-à-dire la prière, de celui qui la délaisse en reniant son obligation, s'il fait partie de ceux qui ne sont pas censés ignorer cela. Mais s'il fait partie de ceux qui ignorent l'obligation, comme les nouveaux musulmans, ou celui qui ne vit pas dans une terre d'islam, ou alors qui vit dans une campagne loin des villes et des gens de science, on ne statue pas de sa mécréance. On lui apprend cela et on lui confirme les preuves de l'obligation. Puis s'il la renie après cela, il mécroit alors. Mais si celui qui la renie, c'est-à-dire l'obligation de la prière, vit dans les villes, au milieu des gens de science, alors il mécroit par son reniement. Et le jugement est le même concernant l'ensemble des piliers de l'islam qui sont la zakat, le jeûne et le pèlerinage, car ce sont les piliers de l'islam et les preuves de leur obligation ne peuvent être ignorées. Ceci est donc la parole de l'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Les gens de science, ils ont donc divergé en différents avis concernant le takfir de celui qui délaisse un ou plusieurs piliers de l'islam, tout en reconnaissant leur obligation. On a vu qu'ils sont unanimes concernant celui qui renie l'obligation. Mais ils ont divergé sur celui qui en délaisse un ou plusieurs, par négligence ou par paresse, tout en reconnaissant leur obligation. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a mentionné 5 avis à ce sujet, rapportés par les gens de science. Et ces 5 avis, une version est rapportée de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, à ce sujet. Le premier avis est que celui qui délaisse un des 4 piliers de l'islam, c'est-à-dire on ne parle pas ici des 2 attestations. On a dit que ceci est une question sur laquelle ils sont unanimes. Mais on parle des 4 autres piliers. La prière, le zakat, le jeûne et le pèlerinage. Donc le premier avis, c'est que celui qui délaisse un de ces 4 piliers, même le pèlerinage, alors celui-ci mécroit. Quant au pèlerinage, il mécroit s'il a la volonté de le délaisser totalement. C'est-à-dire qu'il est fermement décidé à ne jamais l'accomplir. Alors le premier avis soutient qu'il mécroit par cela, par ce délaissement. Et ceci est l'avis d'un groupe parmi les salafs, parmi les prédécesseurs, et comme on a dit, une version rapportée de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Le deuxième avis est qu'il ne mécroit pas par le délaissement d'un des piliers, tant qu'il reconnaît l'obligation, quelle qu'il soit, que ce soit la prière, la zakat, le jeûne ou le pèlerinage, tant qu'il reconnaît l'obligation et qu'il les délaisse par paresse ou par négligence, alors il ne mécroit pas. Et cet avis est connu de beaucoup de savants parmi les compagnons d'Abi Hanifa, Malik, Shafi'i, et aussi, c'est une version de l'imam Ahmed, rahmatullahi ta'ala ala al-jami'a. Qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Le troisième avis est que la personne ne mécroit que par le délaissement de la prière. C'est-à-dire qu'il n'y a que le délaissement de la prière qui fait sortir de l'islam. Et cet avis, il a été soutenu par un certain nombre de salafs, les prédécesseurs de la communauté, et un groupe de savants parmi les compagnons des imams Malik et Shafi'i, rahimahum Allah ta'ala, ainsi que de l'imam Ahmed, rahimahullah. Le quatrième avis est que seul le délaissement de la prière et de la zakat font sortir la personne de l'islam. Donc contrairement au troisième avis, ceux-là ont considéré que le délaissement de la zakat faisait également sortir de l'islam. Et le cinquième avis est que le délaissement de la prière et la zakat n'est considéré comme de la mécréance que si l'imam, c'est-à-dire le gouverneur, combat à cause de leur délaissement. C'est-à-dire qu'il combat ceux qui l'ont délaissé. Dans ce cas-là, le délaissement de la prière ou de la zakat est de la mécréance selon cet avis. Donc tous ces avis, ils ont été mentionnés par Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala. Et il a mentionné que ces 5 avis, il y a une version rapportée à ce sujet de l'imam Ahmed, rahimahullah. Il n'y a donc pas seulement un seul et unique avis sur cette question, comme vous le voyez. Car il y a certaines personnes qui essayent d'imposer des avis sur cette question. Alors qu'il y a bien divergence entre les gens de science parmi les imams de la sunna. Tout en sachant que la divergence, elle est très forte entre les savants de la sunna au sujet de celui qui délaisse la prière par paresse et négligence, tout en reconnaissant son obligation. Et cette divergence, c'est une divergence ancienne entre les gens de la sunna. Elle ne date pas de notre époque. As-Sabuni, rahimahullah ta'ala, il a consacré un passage à ce sujet dans son livre « La croyance des salafs et des gens du hadith ». Il a dit, rahimahullah, « Les gens du hadith ont divergé sur le musulman qui délaisse la prière obligatoire volontairement, c'est-à-dire celui qui la délaisse par négligence ou par paresse, sans renier l'obligation. » Il dit ensuite, rahimahullah, « Ahmed ibn Hanbal et un groupe de savants parmi les salafs ont statué de sa mécréance et l'ont sorti de l'islam d'après le hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Entre le serviteur et le polythéisme, il y a le délaissement de la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. » Puis il a dit, rahimahullah ta'ala, Al-Shafi'i, ses compagnons et un groupe de savants parmi les salafs furent d'avis qu'il ne mécroit pas tant qu'il croit en son obligation. Ceci est donc la parole de l'imam Sabouni rahimahullah ta'ala dans son livre « La croyance des salafs et des gens du hadith ». Et ces savants-là, comme l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, qui furent d'avis que celui qui délaisse la prière ne mécroit pas tant qu'il reconnaît son obligation. Comment ils ont interprété le précédent hadith ? Ils ont dit que ce qui est visé dans le hadith, entre le serviteur et le polythéisme, il y a le délaissement de la prière. Ils ont dit que le délaissement ici, il signifie le fait de renier l'obligation de la prière. Et ils se sont basés pour cela sur le verset 37 de Sourate Yusuf, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Yusuf, « Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. » J'ai délaissé la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui mécroit en l'au-delà. Donc Yusuf alayhi salam, lorsqu'il dit qu'il a délaissé la religion de ce peuple, ceci ne veut pas dire qu'il était sur cette religion auparavant. Mais au contraire, il n'a jamais été sur la mécréance. Mais le délaissement qui est visé ici, c'est quoi ? C'est qu'il a renié la religion de ce peuple. Il a renié cette religion de mécréance. C'est pour cela qu'ils ont dit que ce qui est visé par le délaissement ici dans le hadith, c'est le fait de renier la prière, c'est-à-dire de renier son obligation. Ceci est donc un des avis des savants parmi les imams de la sunna. L'imam Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre « At-Tamhid » en annotation de la parole, soutenant que celui qui délaisse la prière par paresse ou négligence, sans renier son obligation, est un croyant à la fois déficiente. Il dit donc en annotation de cette parole, rahimahullah ta'ala, cette parole est soutenue par un groupe des imams soutenant que la foi est parole et acte. C'est-à-dire par un groupe des imams, des savants de la sunna. On a vu dans la définition de la foi que les gens de la sunna disent que la foi est parole et acte. Elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la désobéissance. Donc l'imam Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, il nous dit que cet avis de considérer celui qui délaisse la prière comme un croyant, mais un croyant à la fois déficiente, c'est un des avis prononcés et soutenus par certains imams parmi les imams de la sunna. Et il dit, rahimahullah, les murji'a, qui sont un groupe de l'innovation qui se sont égarés sur les questions liées à la foi, ont aussi soutenu cet avis, c'est-à-dire que celui qui délaisse la prière ne mécroit pas. Sauf que les murji'a disent, c'est un croyant à la foi complète. Et ceci est donc la différence entre les murji'a et les gens de la sunna. On trouve à notre époque un groupe, parmi les groupes qui se sont égarés et qui se sont écartés de la croyance sunnite authentique, un groupe nommé par les savants, Al-Haddadiyya, les Haddadi, qui eux ont exagéré au sujet de cette question et qui ont accusé les savants de la sunna qui ne taxent pas de mécréance celui qui délaisse la prière par paresse et négligence tout en reconnaissant son obligation. Ils ont dit, cette parole est une parole d'irja. Ils ont ainsi accusé des grands imams de la sunna parmi les anciens et les contemporains, à l'exemple de l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, ou l'imam, le shaykh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, d'être touché par la croyance de l'irja. Alors que les gens de la sunna, qu'est-ce qu'ils disent au sujet de celui qui délaisse la prière ? Par paresse et par négligence, tout en reconnaissant son obligation. S'ils ne considèrent pas qu'il est mécréant, ils disent c'est un croyant à la fois déficiente. Alors que les murji'a, qu'est-ce qu'ils disent eux ? Ils disent c'est un croyant à la foi complète. On voit donc très bien la différence entre l'avis prononcé par les savants de la sunna et l'avis prononcé par ces égarés qui sont al-murji'a. Les haddadi, ils ont donc fait de l'exagération à ce sujet au point de taxer d'innovation des imams parmi les imams de la sunna, parmi les anciens et les contemporains. Il faut donc prêter attention à cela. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « فَأَمَّا ثَلَاثٌ مِنْهَا فَلَا يُنَاظَرُ تَارِكُهَا مَنْ لَمْ يَتَشَهَدْ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ يَصُمْ » Il dit celui qui en délaisse trois d'entre eux, c'est-à-dire trois des piliers de l'islam. Il n'a pas d'ajournement. Celui qui ne prononce pas les deux attestations, qui ne prie pas et ne jeûne pas. En effet, rien de cela ne peut être retardé. Donc ici l'auteur, rahimahullah ta'ala, il veut nous montrer qu'il est obligatoire pour le musulman de se conformer à ces trois piliers, et ce en leur temps. Et qu'il n'est pas permis de les ajourner, de les retarder de leur temps, sauf avec une excuse. Ceci en ce qui concerne la prière et le jeûne. Car on a dit, les deux attestations ne peuvent pas être retardées. Contrairement aux autres piliers de l'islam, comme la zakat et le pèlerinage. Car l'obligation de la zakat et du pèlerinage, elle ne concerne pas l'ensemble des musulmans, mais elle concerne seulement ceux qui remplissent les conditions nécessaires pour que ces deux piliers soient obligatoires pour eux. Quant à ceux qui ne remplissent pas ces conditions, celui qui ne possède pas de biens imposables, il ne doit pas payer la zakat. Et celui qui ne remplit pas les conditions pour faire le pèlerinage, alors il n'est pas obligatoire pour lui. Ensuite, il dit, rahimahullah, لِأَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ شَيْءٌ مِّنْ هَذَا عَنْ وَقْتِهِ. En effet, rien de cela ne peut être retardé, c'est-à-dire la prière et le jeûne, car cela fait partie des piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit les cinq prières, et il a prescrit pour celles-ci des temps déterminés. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. En réalité, la prière demeure pour les croyants une prescription en des temps déterminés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril alayhi salam, lui a enseigné ces temps. Et lui, il les a enseignés à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il est donc obligatoire pour le croyant de se soumettre à cette obligation, et ce, en son temps prescrit. Chacune des prières, en son temps, et il n'est pas permis de les faire sortir de leur temps. Et il en est de même pour le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne en un mois déterminé. Chaque année, le mois de Ramadan. Et les musulmans doivent jeûner durant ce mois. Et il n'est pas permis de le retarder, sauf pour celui qui a une excuse, comme le malade ou le voyageur par exemple. Donc le mois du jeûne, c'est un mois déterminé et connu. Quant aux deux attestations, comme on a dit, elles ne sont pas retardées. Mais au contraire, elles doivent être appliquées par le croyant en tout temps et en toute situation. Elles n'ont pas de temps déterminé. Il est obligatoire pour le croyant de concrétiser et de réaliser sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment de la journée et en tout lieu. Quoi qu'il fasse, il ne se détache jamais de sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les deux attestations, elles n'ont pas de temps déterminé. Mais en tout temps, il est obligatoire pour l'homme de mettre en pratique ce tawhid, d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à lui, de lui vouer un culte exclusif et de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est donc indispensable pour le croyant d'accomplir ses prescriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enjoint, et ceci fait partie de la réalisation de sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: وَلَا يُجْزِهُ مَنْ قَضَاهُ بَعْدَ تَفْرِيطِهِ فِيهِ عَامِدًا عَنْ وَقْتِهِ. Et le rattrapage n'en tient pas lieu pour celui qui les a négligés volontairement jusqu'à la sortie du temps. Donc ceci confirme ce que l'on a mentionné précédemment. Le shaykh rahimahullah ta'ala, il attire ici notre attention sur le fait que celui qui a négligé une partie de ses piliers prescrits en des temps déterminés dans la législation, volontairement et par paresse et négligence. Puis ensuite, il les met en pratique après la sortie de leur temps. Alors ceci n'en tient pas lieu, car il les a accomplis en dehors du temps durant lequel ils ont été prescrits. C'est-à-dire qu'en faisant cela, il ne s'est pas acquitté de son devoir. Cependant, si son délaissement il ne concerne que une ou deux prières, ou un ou deux jours de jeûne, alors dans ce cas-là, il est obligatoire pour lui de les rattraper. Cependant, elles ne le seront pas comptées comme telles, il lui sera inscrit un péché pour cela. Il est donc obligatoire pour lui de rattraper ses prières et ce jeûne, et également de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette négligence et ce délaissement. Quant à celui qui les a délaissés durant plusieurs années, il a passé plusieurs années à délaisser la prière, à délaisser le jeûne, wal'iyadu billah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Alors celui-ci, il lui suffit de se repentir et de multiplier les prières et le jeûne surérogatoire, espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala le pardon pour cette négligence passée. Donc la prière et le jeûne, il n'est pas permis de les retarder de leur temps. Et celui qui les rattrape, après la sortie de leur temps, il ne sera pas considéré comme les ayant accomplis, mais il aura un péché pour son délaissement. Ensuite il dit, rahimahullah, فَأَمَّا الزَّكَاتُ فَمَتَى مَا أَدَّاهَا أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَكَانَ آثِمًا فِي الْحَبْسِ. Il dit, quant à la zakat, dès qu'il s'en acquitte, cela est compté pour lui, mais il est dans le péché pour l'avoir retenu, c'est-à-dire pour l'avoir retardé. Donc ici, l'auteur, rahimahullah, il attire notre attention sur la différence entre ces différents piliers. Il dit, celui qui a délaissé la zakat durant plusieurs années, il doit s'acquitter de cette zakat. Et au moment où il s'en acquitte, cela est compté pour lui comme un acquittement. C'est-à-dire qu'elle est valide pour lui. Cependant, il sera dans le péché pour l'avoir retenu durant ces années. Mais il ne faut pas penser que celui qui a délaissé la zakat à un certain temps, il peut commencer à la sortir au moment où il le désire. Mais il est indispensable qu'il verse la zakat pour toutes les années durant lesquelles il l'a négligée, même s'il s'est passé 10 ans. Si pendant 10 ans il a délaissé volontairement la zakat, il a négligé cette obligation, il ne l'a pas versée, sans aucune excuse, alors il est dans le péché et il est obligatoire pour lui de la verser et de se repentir pour ce retard et cette négligence. Et une fois qu'il l'a versée, alors il s'est acquitté de son obligation. Cependant, il aura un péché pour l'avoir retenu sans excuse. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَأَمَّا الْحَجُّ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ وَوَجَدَ السَّبِيلَ إِلَيْهِ وَجَبَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ مَتَى أَدَّاهُ كَانَ مُؤَدِّيًا » Quant au pèlerinage, celui pour qui il est obligatoire et qui peut s'y rendre, qui a les capacités de s'y rendre, alors il est obligatoire pour lui. Mais il n'est pas obligé de l'accomplir la même année. Et dès qu'il l'accomplit, il est alors compté comme tel. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il continue à nous exposer la différence entre le délaissement des différents piliers de l'islam. Et le pèlerinage, il fait partie des 5 piliers de l'islam, comme on l'a vu dans le hadith qu'il a mentionné. L'islam est fondé sur 5, et le dernier qu'il a mentionné dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage de la maison pour celui qui en a les capacités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit le pèlerinage pour celui qui a les capacités de l'accomplir. Et le pèlerinage, il n'est obligatoire que pour celui qui remplit certaines conditions. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit, le pèlerinage n'est obligatoire que sous 5 conditions. L'islam, la raison, la puberté, la liberté et les capacités. Celui qui remplit ces 5 conditions, le pèlerinage est obligatoire pour lui, c'est-à-dire une fois dans sa vie. Cependant, est-ce que le pèlerinage est obligatoire immédiatement lorsque la personne en a les capacités et remplit ses conditions? Ou alors, est-ce qu'il est possible de l'ajourner? Et c'est ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ici. Il a dit, وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي عَمِّهِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ مَتَا أَدَّاهُ كَانَ مُؤَدِّيًا وَلَمْ يَكُنْ آثِمًا فِي تَأَخُّرِهِ إِذَا أَدَّاهُ. Il dit, mais il n'est pas obligé de l'accomplir la même année, c'est-à-dire l'année où il remplit les conditions de son obligation. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix. Dès qu'il l'accomplit, il est alors compté comme tel et il n'est pas dans le péché pour l'avoir retardé tant qu'il l'a accompli. Donc cette question, elle est sujette à divergence entre les gens de science. Le premier avis est qu'il est obligatoire pour le musulman qui remplit les conditions d'obligation du pèlerinage de l'accomplir immédiatement lorsqu'il devient obligatoire pour lui. À partir du moment où il remplit les conditions, il n'est pas permis pour lui de le retarder, sauf avec une excuse légiférée. Par exemple, il est malade ou autre, des choses l'empêchent d'accomplir le pèlerinage au moment où il devient obligatoire pour lui, alors il lui est permis de le retarder. Mais s'il n'a pas d'excuse, alors il n'est pas permis pour lui de le retarder. Et ceci est l'avis de l'imam Abu Hanifa, ainsi que Malik et Ahmed et d'autres, rahimahumullah ta'ala. Le deuxième avis est qu'il est permis d'ajourner cette obligation et qu'il n'est pas obligatoire de l'accomplir immédiatement. Et ceci est l'avis de l'imam Shafi'i. Et c'est celui qu'a soutenu l'imam al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, ici. Et il apparaît que ceci est l'avis prépondérant. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit, « Nos confrères ont argumenté en disant que s'il le retarde d'une année à une autre, ou plus, et qu'il le fait, c'est-à-dire le pèlerinage, alors il est considéré comme ayant accompli le pèlerinage, et non pas comme l'ayant rattrapé, et ce à l'unanimité des musulmans. » C'est-à-dire qu'ils ont argumenté sur cette question, en disant que si une personne a les capacités d'accomplir le pèlerinage, mais le retarde volontairement sans excuse, seulement par paresse ou par négligence, et l'accomplit 2 ans, 3 ans ou plus, après en avoir eu les capacités, puis il fait le pèlerinage, est-ce qu'on dira de lui qu'il a accompli le pèlerinage ou qu'il a rattrapé le pèlerinage? Il dit, al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah, que l'on dira de lui qu'il a accompli le pèlerinage, et ce à l'unanimité des musulmans. Et personne ne dit qu'il a rattrapé le pèlerinage. Ceci indique que c'est une obligation qu'il est permis d'ajourner. L'imam Ibn Abdelbar, rahimahullah ta'ala, a dit dans At-Tamhid, et parmi les preuves de la permission de retarder le pèlerinage et l'unanimité des savants concernant le fait de ne pas taxer de perversion celui qui est capable d'accomplir le pèlerinage et qu'il le retarde un an, deux ans ou un peu plus. Et que s'il accomplit le pèlerinage plusieurs années après en avoir eu les capacités, alors on dira de lui qu'il a accompli le pèlerinage obligatoire en son temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas comme celui qui a délaissé la prière jusqu'à ce qu'elle sorte de son temps. Donc le pèlerinage, il est obligatoire une fois dans la vie de la personne. Mais la personne, il lui est permis de le retarder jusqu'au moment où elle souhaite l'accomplir. Cependant, celui qui a les capacités d'accomplir le pèlerinage et que rien ne l'empêche de l'accomplir, alors il n'y a pas de doute qu'il est préférable, plus méritoire, plus complet et meilleur pour lui de s'empresser d'accomplir le pèlerinage afin de s'affranchir de cette obligation et de cette prescription immense qui fait partie des piliers de l'islam et ainsi de s'acquitter de son obligation devant Allah subhanahu wa ta'ala et de sortir de cette divergence. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, وَلَمْ يَكُنْ آثِمًا فِي تَأْخِيرِهِ إِذَا أَدَّاهُ كَمَا كَانَ آثِمًا فِي الزَّكَاةِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌ لِمُسْلِمِينَ مَسَاكِينَ حَبَسَهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ آثِمًا حَتَّى وَصَلَ إِلَيْهِمْ وَأَمَّا الْحَجُّ فَكَانَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ إِذَا أَدَّاهُ فَقَدْ أَدَّاهُ. Il dit, rahimahullah, il n'est pas dans le péché pour l'avoir retardé tant qu'il l'a accompli, c'est-à-dire le pèlerinage, comme il est dans le péché pour la zakat. On a vu que pour la zakat, il est dans le péché s'il la retarde. Ensuite, il nous explique pourquoi. En effet, la zakat est un droit pour les musulmans pauvres qui leur est réservé. Il est donc dans le péché jusqu'à ce qu'il leur parvienne. C'est-à-dire que s'il ne verse pas la zakat, qu'il la retarde, il en a privé ses ayants droit. Il a retardé le fait de leur accorder ce droit. C'est pour cela qu'il est dans le péché. Il dit, rahimahullah, quant au pèlerinage, il est entre lui et son Seigneur. Une fois accompli, il s'en est acquitté. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici nous montre la différence entre ces deux piliers. La zakat, qui est un droit parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a prescrit à certains de ses serviteurs en faveur d'autres de ses serviteurs, ceux qui sont en droit de recevoir la zakat. Donc lorsque la personne retarde ce pilier, retarde le fait d'acquitter la zakat en son temps, elle a privé ses ayants droit de cet argent et de ses biens qui devaient leur parvenir. Et c'est pour ça qu'elle est dans le péché. Et son péché, il dure autant qu'il retarde la zakat, s'il n'a pas d'excuse pour son retard. Car en la retardant, il s'est opposé à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il a commis une interdiction. C'est pour cela qu'il est dans le péché. Et il est obligatoire pour celui qui a retardé la zakat, une fois qu'il s'en est acquitté, de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir à Allah, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala expie ce péché et accepte son repentir. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de ses serviteurs. Quant au pèlerinage, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de lien avec les autres créatures, mais il est seulement entre le serviteur et son Seigneur. Et ceci est la différence entre le retardement du pèlerinage et le retardement de la zakat. Ensuite, rahimahullah ta'ala, il a dit: wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati'un wa lam yahujj sa'ala ar-raj'a ila ad-dunya an yahujj. Il dit: s'il meurt alors qu'il était apte et capable, c'est-à-dire d'accomplir le pèlerinage, mais n'a pas accompli le pèlerinage, il demandera alors à revenir dans ce bas monde pour aller au pèlerinage. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, ici nous explique que celui qui a délaissé le pèlerinage alors qu'il en avait les capacités, il était apte, il remplissait les conditions d'accomplir le pèlerinage. Mais par paresse ou par négligence, il a délaissé celui-ci. Alors ce délaissement, il sera source de regret pour lui au jour de la résurrection. Il regrettera de ne pas s'être soumis à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il en avait les capacités. Et il espérera revenir dans ce bas monde afin de s'acquitter de son devoir, mais il ne sera pas possible pour lui de revenir. Et le shir, rahimahullah ta'ala, par cette parole, il a fait référence à un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, et d'autres, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit: celui qui a de l'argent lui permettant de se rendre au pèlerinage de la maison de son Seigneur, ou de l'argent sur lequel il lui incombe de verser la zakat, et qu'il ne verse pas la zakat, alors il demandera de revenir dans ce bas monde après sa mort. Ceci est une parole qui est rapportée d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Cependant, Nombre de gens de science ont considéré ce hadith comme étant faible. Et parmi eux, l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Quoi qu'il en soit, il incombe aux serviteurs de s'empresser de s'acquitter de ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment cette obligation immense, l'obligation du pèlerinage. Il n'est pas permis pour le serviteur de négliger les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enjoint. Il ne doit pas être négligent, ni faire preuve de paresse vis-à-vis des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois plutôt t'empresser de te soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits. Et celui qui s'empresse d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci montre sa véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la force de sa foi ainsi que sa sincérité envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala, il a conclu cet épître en disant وَيَجِبُ لِأَهْلِهِ أَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَنَرْجُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقُضِيَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. Il dit, il est donc obligatoire pour sa famille de faire le pèlerinage pour lui, c'est-à-dire celui qui est mort alors qu'il avait les capacités de faire le pèlerinage mais qu'il ne l'a pas fait. Il est donc obligatoire pour sa famille de faire le pèlerinage pour lui et nous espérons que cela soit un acquittement pour lui de la même manière que s'il avait une dette, on la payerait pour lui après sa mort. Il est venu dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit qu'une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ma mère a fait le serment de faire le pèlerinage, mais elle ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'elle meure. Dois-je faire le pèlerinage pour elle ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Oui, fais le pèlerinage pour elle. Vois-tu, si ta mère avait une dette, t'en serais-tu acquitté ? Alors acquittez-vous du droit d'Allah, car Allah est plus en droit que l'on s'acquitte de son droit. » Donc celui qui meurt et qui avait l'obligation d'accomplir le pèlerinage et qui a délaissé le pèlerinage. Les gens de science ont divergé à son sujet. Certains ont dit qu'il est obligatoire de prendre de ses biens afin d'accomplir pour lui le pèlerinage et la umrah, si également il n'avait pas fait la umrah obligatoire. Car il y a le pèlerinage et la umrah qui sont obligatoires une fois dans la vie. Et la umrah, elle est accomplie durant les rites du pèlerinage. Donc il est obligatoire de prendre de ses biens afin d'accomplir pour lui le pèlerinage, ainsi que la umrah, qu'il ait délaissé le pèlerinage par négligence ou sans négligence. Le deuxième avis est que ceci n'est pas obligatoire une fois qu'il est mort. Mais s'il a fait un testament demandant que l'on accomplisse le pèlerinage pour lui, alors il doit être accompli en prenant du tiers de ses biens, c'est-à-dire du tiers qu'il est permis de léguer de ses biens, et non pas de l'ensemble de ses biens. L'imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a dit dans Al-Mughni, nous disons qu'une fois que meurt celui pour qui le pèlerinage était obligatoire et qu'il n'a pas fait le pèlerinage, alors il est obligatoire de sortir pour lui une partie de ses biens afin de faire le pèlerinage et la umrah, qu'il l'ait délaissé par négligence ou sans négligence. Et ceci est la parole d'Al-Hassan, de Taous et de Shafi'i. Puis il dit, rahimahullah, et Abu Hanifa et Malik ont dit que l'obligation n'est plus après la mort et que s'il a fait un testament, alors ceci doit être pris du tiers de ses biens. Ceci est la parole de Sha'bi, de Nakhari, et ce, car l'obligation qui est liée au corps n'est plus après la mort, tout comme la prière. C'est-à-dire, une fois que la personne meurt, les obligations qui sont physiques, elles ne doivent plus être accomplies. Elles ne sont plus obligatoires pour lui. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que ceci fait partie des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est obligatoire de s'en affranchir. Et le texte est explicite concernant le fait de le rattraper pour lui. Donc, ceci doit être rattrapé de la même manière que l'on s'acquitte de ses dettes. Cependant, il est important de souligner que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus important des droits desquels tu dois t'acquitter dans ce bas monde. Il est donc obligatoire pour la personne douée de raison de ne pas plonger sa famille et ses proches dans la divergence après sa mort, mais de s'empresser de s'acquitter de cette obligation et de s'en affranchir, et qu'il fasse lui-même le pèlerinage s'il en a les capacités. S'il est en mesure d'accomplir le pèlerinage, qu'il s'empresse de le faire, afin de ne pas mettre sa famille et ses proches dans la gêne après sa mort, et qu'il leur incombe de faire le pèlerinage pour lui. Mais il s'empresse de faire cela s'il en a les capacités, et ceci qui incombe à toute personne qui a les capacités d'accomplir le pèlerinage. Ainsi, il ne mettra pas sa famille et ne les plongera pas dans la divergence après sa mort. On a donc terminé La lecture de cette épître concise, ou sur le sunna, les fondements de la sunna, de l'imam Abu Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala, ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de lui seul que vient le succès, et ce qui a pu se produire comme erreur ou comme manquement ne provient que de moi ou du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.